Deuxième partie. Établissons maintenant quelles en sont les bornes et quelles limites, pour ainsi dire, il faut assigner à son zèle. Je connais là-dessus trois maximes dont aucune ne me paraît vraie. La première, que nous ne devons être disposés à faire pour nos amis que ce que nous ferions pour nous. La seconde, que notre bienveillance doit être mesurée sur la leur. La troisième, qu'il ne faut apprécier un ami que comme il s'apprécie lui-même. Je n'adhère à aucune de ces trois maximes. Et premièrement, celle-là n'est pas vraie, qu'on ne doive avoir pour son ami que le même zèle qu'on a pour soi. Combien de choses, en effet, ne faisons-nous pas pour nos amis que nous ne ferions point pour nous-mêmes ? Comme de prier, de supplier un homme que nous méprisons, de nous élever contre un autre avec plus d'aigreur, d'éclater avec plus de véhémence. Ces procédés qui ne seraient pas convenables dans notre propre cause deviennent généreux dans celle de nos amis. Il est aussi beaucoup d'occasions où un homme libéral abandonne et sacrifie ses intérêts propres pour en faire jouir de préférence son ami. La seconde maxime borne l'amitié à une égale mesure de sentiment et de service. C'est avoir de l'amitié une idée bien petite et bien étroite que de la réduire ainsi en calcul par un rapport exact entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. La vraie amitié me paraît bien plus généreuse et plus magnifique en n'examinant pas avec cette rigueur si elle rend plus qu'elle n'a reçu. Lorsque l'on donne à son ami, il faut donner à pleine main, sans craindre de perdre quelque chose ou d'en faire trop pour un ami. La plus mauvaise de ces trois maximes est la dernière, qu'il ne faut avoir de ses amis que l'idée qu'ils en ont eux-mêmes. Combien n'en est-il pas, en effet, qui n'ont pas une assez bonne opinion d'eux-mêmes et dont il convient de relever les espérances ? Il ne serait pas d'un ami de penser comme eux. Tâchons au contraire d'obtenir qu'ils rappellent leur courage et de les faire renaître à de plus douces pensées, à une plus noble confiance. Il faut donc prescrire d'autre bord dans la véritable amitié. Et j'en parlerai tout à l'heure, après avoir examiné d'abord une autre maxime que Scipion avait coutume de repousser avec indignation. Jamais, selon lui, on n'avait proféré un plus grand blasphème contre l'amitié que de dire qu'il fallait aimer comme si l'on devait haïr un jour. Et il ajoutait qu'on ne lui ferait jamais croire que ce mot, comme on le prétendait, fut de Bias, un des sept sages, que c'était plutôt la maxime d'un homme corrompu ou de quelque ambitieux qui rapportait tout à son élévation. Qui pourrait en effet être l'ami de celui dont il penserait qu'il pourrait un jour être l'ennemi ? Il faudrait aussi désirer que notre ami commit très souvent des fautes pour avoir plus d'occasion de rompre avec lui. Il faudrait encore s'affliger et être jaloux de ses bonnes actions et de ses succès. Une telle maxime, quel qu'en soit l'auteur, n'est propre qu'à détruire l'amitié. Il valait mieux nous prescrire d'être circonspects dans le choix de nos amis, afin de ne pas nous exposer à aimer quelqu'un qui pourrait un jour mériter notre haine. Il y a plus. Scipion pensait que si nous avions fait un choix malheureux, la sagesse consistait plutôt à supporter un ami tel qu'il était qu'à penser qu'il pourrait devenir notre ennemi. Voici donc dans quelle borne je refermerai l'amitié. Entre deux amis, lorsqu'ils sont honnêtes, tout doit être commun sans exception. Ils ne doivent avoir qu'une même intention, qu'une même volonté. Et si même par hasard l'un a besoin du secours de l'autre dans quelque affaire équivoque d'où dépend sa vie ou son honneur, on peut se relâcher à un moment de ses principes, à moins que ce ne fût absolument se diffamer soi-même. L'amitié excuse jusqu'à un certain point. Il faut craindre toutefois d'exposer sa réputation. La bienveillance publique est un grand secours dans la gestion des affaires. Mais elle ne doit pas être le prix d'une basse adulation. C'est la vertu qui doit être notre appui. La bienveillance la suit toujours. Pour revenir à Scipion, dont je vous répète tous les discours sur l'amitié, il se plaignait souvent de l'inconséquence des hommes. moins soigneux pour l'amitié que pour les autres affaires de la vie. Chacun, ajoutait-il, pourrait vous dire le nombre de ses brebis et de ses chèvres, mais non celui de ses amis. Chacun apporte le plus grand soin dans l'achat de ses troupeaux et la plus grande négligence dans le choix de ses amis. On ne s'applique nullement à reconnaître, à de certains signes, quels sont ceux qui sont capables d'une amitié sincère. Notre choix doit tomber sur les hommes solides, fermes, constants. Il y en a peu, et il n'est pas aisé de les connaître sans en avoir fait l'épreuve. Or, cette épreuve ne peut se faire que dans l'amitié même. Ainsi, la liaison se forme avant que d'avoir pu s'éprouver, et le choix fait, il n'y a plus d'examen. Il est donc prudent de comprimer le premier essor de notre bienveillance, comme on retient la course d'un char avant d'en avoir essayé les chevaux, et de ne nous livrer à l'amitié qu'après avoir éprouvé de quelque manière le caractère de nos amis. Pour découvrir leurs faibles, souvent le plus mince intérêt pécuniaire suffit. Une somme plus considérable en démasquera d'autres. Mais s'il en est quelques-uns qui regardent comme une chose honteuse de préférer l'argent à l'amitié, en trouvera-t-on beaucoup qui la préfèrent aux honneurs, aux magistratures, au commandement des armées, à la puissance, à l'autorité? Quand ils verront d'un côté ces objets éclatants de leur ambition, de l'autre les droits de l'amitié, croyez-vous qu'ils balancent? La nature est trop faible pour résister aux attraits du pouvoir. Lorsqu'il en coûte pour y atteindre que de sacrifier ses amis, on se persuade aisément que le succès porte son excuse avec soi. Aussi est-il bien difficile de trouver de vrais amis dans ceux qui se livrent aux affaires publiques et qui courent la carrière des honneurs. Où trouver celui qui préfère l'élévation de son ami à la sienne propre? Mais quoi, sans parler de ses rivalités, combien peu sont capables de partager avec un ami le poids de ses malheurs? Ennius a dit cependant, avec raison, « Quand la fortune change, on voit l'ami fidèle. » Mais il n'en est pas moins vrai que les deux plus grands écueils de la constance, en amitié, sont la prospérité et l'adversité. La plupart nous méprisent lorsqu'ils sont heureux ou nous abandonnent dans nos disgrâces. Il faut donc regarder comme un homme digne d'une espèce rare et presque divine l'ami solide qui ne varie point avec la fortune. Le fondement de cette stabilité, de cette constance que nous cherchons dans l'amitié, c'est la confiance. Sans elle, rien de stable en amitié. Choisissez donc un ami simple, communicatif, qui pense et qui sente comme vous. Tout cela tient à la fidélité. Un esprit tortueux et qui prend toutes les formes ne peut être fidèle. Et celui qui n'est pas touché des mêmes choses que vous, qui n'a pas naturellement la même façon de penser que vous, ne saurait être un ami sûr et constant. Il faut ajouter encore que notre ami ne doit ni se plaire à nous prêter des torts, ni croire à ceux qu'on nous prête. Toutes ces choses tiennent beaucoup à cette constance sur laquelle j'insiste. Il est donc vrai, comme je l'ai dit en commençant, que l'amitié ne peut exister qu'entre honnêtes gens, car il est dans le caractère de l'honnête homme, qu'on peut aussi appeler sage, d'observer ces deux règles en amitié. La première, de n'avoir rien de faux, rien de simulé. Il est plus généreux de haïr à découvert que de masquer ses sentiments. La seconde, de détruire les inculpations faites à son ami, sans être soi-même soupçonneux et toujours prêt à le croire coupable. Pour achever le portrait, joignez à tout cela une certaine aménité dans les discours et dans les mœurs, qui est le plus doux assaisonnement de l'amitié. La tristesse doit en être bannie, ainsi qu'une continuelle sévérité. C'est là, sans doute, le propre d'un caractère grave, mais l'amitié doit être facile, indulgente, est toujours plus porté à la douceur et aux prévenances. On fait ici une question assez captieuse. On demande si nous devons préférer à nos anciens amis les nouveaux. quand ils sont dignes de notre amitié, ainsi que nous avons coutume de préférer les jeunes chevaux aux vieux. Le doute sur une telle question serait indigne d'un homme. L'amitié ne doit pas être, ainsi que beaucoup d'autres choses, sujette à la satiété. La plus ancienne, comme le vin qui supporte bien les années, doit être la plus douce. Et ce vieux proverbe est plein de vérité, qui dit qu'il faut manger ensemble plusieurs boisseaux de sel avant que l'amitié soit parfaite. Quant aux nouvelles amitiés, il ne faut pas les négliger si, comme les plantes qui ne trompent jamais, elles font espérer d'heureux fruits, mais que les anciennes conservent leur rang. Une longue habitude a sur nous beaucoup de force. Et pour revenir aux chevaux dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'est personne qui, libre dans son choix, ne se serve plus volontiers de celui qu'il monte d'ordinaire que d'un autre qui n'a jamais essayé. Cette force de l'habitude nous attache non seulement aux animaux, mais encore aux choses inanimées. Ainsi nous nous plaisons dans les lieux escarpés et sauvages où nous avons longtemps vécu. Mais un point essentiel en amitié, c'est que la supériorité des rangs disparaisse. Il est souvent des amis d'un ordre élevé, comme l'était Scipio dans notre société. Jamais il n'eut l'air de se préférer à Philus ou à Mummius ou à Upilius. Jamais aucun de nos amis, de quelque rang inférieur qu'il fût. Il respectait le droit d'Aînès dans Quintus Maximus, son frère, homme d'un grand mérite, mais qui certes ne valait pas. Et il voulait que l'éclat de sa gloire rejaillît sur tous les siens. Tel est l'exemple que tout le monde doit suivre. L'homme qui s'élève par sa vertu, par son génie, par sa fortune, doit faire participer les siens à son élévation. De manière que, s'il est né de parents obscurs, si ses proches sont sans crédit et sans bien, il leur fasse part de ses richesses et leur communique son éclat. Voyez les personnages mêmes de la fable. Après avoir, dans l'ignorance de leur naissance et de leur race, longtemps vécu dans la servitude, lorsqu'ils viennent à être reconnus et qu'ils se voient les enfants des dieux ou des rois, ils conservent néanmoins leur tendresse pour les bergers qu'ils ont longtemps regardés comme leurs pères. À plus forte raison doit-on le faire pour ses véritables parents. Les fruits du génie, de la vertu et de toute espèce de supériorité sont bien plus doux à recueillir lorsqu'on les partage avec les siens. Si les hommes qui ont quelque prééminence doivent dans le commerce de l'amitié se mettre au niveau de leurs inférieurs, ceux-ci de leur côté ne doivent pas être fâchés de se voir surpassés par leurs amis en génie, en fortune et en dignité. Il en est qui ont toujours des plaintes ou des reproches à faire, surtout lorsqu'ils peuvent se vanter de quelques traits d'amitié où ils ont manifesté leur zèle, leur fidélité ou leur courage. C'est une espèce de gens bien fâcheux que ceux qui reprochent leur service. Celui qui les a reçus doit s'en souvenir et celui qui les a rendus ne pas les rappeler. Il ne suffit donc pas dans l'amitié que les grands se rapprochent des petits. Il faut qu'ils les élèvent, pour ainsi dire, jusqu'à eux. Car il y en a qui détruisent le charme de l'amitié par l'idée qu'ils sont méprisés. Cette idée ne s'offre guère qu'à ceux qui n'ont pas une assez bonne opinion d'eux-mêmes. On doit chercher à les en guérir encore plus par des actions que par des paroles. Il faut être utile à vos amis, d'abord selon l'étendue de votre pouvoir, ensuite selon les talents et les conditions de ceux que vous aimez et que vous voulez servir. Quelque crédit que vous ayez, vous ne pourrez pas élever tous les vôtres aux premiers honneurs. Scipion put bien faire consul Publius Rupilius, mais non pas son frère Lucius. Quand vous pourriez tout pour votre ami, encore faudrait-il consulter ses forces. L'amitié ne peut être solide que lorsque l'âge et le caractère sont formés. Ceux qu'on chérit dans la jeunesse, parce qu'ils ont comme nous le goût de la chasse ou de la paume, ne sont pas toujours nos amis. car alors nos nourrices et ceux qui ont dirigé notre enfance, par droit d'ancienneté, auraient le droit de plus de part à l'attachement de notre cœur. Nous ne devons pas, certes, les négliger, mais l'affection qu'on leur doit est d'une autre nature. Sans cette attention, il n'y aurait guère de stabilité dans l'amitié. La différence des habitudes produit celle des goûts, et c'est là ce qui rompt les amitiés. La seule cause qui empêche les bons et les méchants de se lier jamais ensemble, c'est la différence de leurs mœurs et de leurs inclinations. Et cette différence est aussi grande qu'elle puisse être. Nous devons encore établir comme un principe en amitié de ne point nuire à nos amis par un excès d'affection, ainsi qu'il arrive souvent. Pour en revenir à la fable, Néoptolène ne fut jamais venu à bout de prendre Troie s'il eût cédé aux larmes de Lycomède, auprès de qui il avait été élevé et qui s'opposait à son départ. De grands intérêts exigent souvent la séparation de deux amis. Celui qui s'y oppose, pour s'épargner les regrets de l'absence, laisse voir sa pusillanimité et sa faiblesse, et se montre par là peu juste en amitié. En toute chose, il faut considérer et ce que vous demandez à votre ami et ce que vous pouvez lui accorder. C'est quelquefois comme un malheur nécessaire de renoncer à certains amis, car je passe maintenant de l'amitié des sages aux liaisons vulgaires. Les vices des hommes dont je parle viennent souvent à éclater, et que ce soit au préjudice de leurs amis ou aux dépens des autres, l'infamie en rejaillit toujours sur ceux qui avaient quelque rapport avec eux. Alors, en cessant peu à peu de se voir, l'amitié s'efface et s'oublie. Il faut, comme je l'ai entendu dire à Caton, plutôt découdre que déchirer, à moins qu'il ne s'agisse d'une action dont la noirceur nous porte à une séparation et un éclat qui ne serait ni juste, ni honnête, ni possible de différer. Si les mœurs et les inclinations viennent à changer, comme elle arrive souvent, ou bien si les divers partis qui existent dans la République nous divisent, je n'entends parler, je le répète, que de l'amitié vulgaire et non de celle des sages. Il faut alors bien prendre garde que l'inimitié ne succède à l'amitié, car il n'y a rien de plus honteux que d'être en guerre avec celui qui a vécu dans notre intimité. Scipio, vous le savez, rompit à ma considération avec Quintus Pompée. D'un autre côté, les différents qui partageaient alors la République de Bruyère avec Metellus, son collègue et le mien. Dans ces deux circonstances, il agit avec dignité, sans montrer ni aigreur ni ressentiment. Il faut donc d'abord écarter avec soin tout sujet de rupture, et lorsqu'on ne peut l'éviter, faire en sorte que l'amitié paraisse plutôt éteinte qu'étouffée. Mais prenons garde surtout qu'elle ne se charge en une violente inimitié qui amène toujours avec elle des injures, des querelles et des outrages. Même alors, il vaut toujours mieux supporter ces attaques, pour peu qu'elles soient supportables, et par respect pour l'ancienne amitié, se persuader que l'injure est pour celui qui l'a fait, et non pour celui qui la souffre. La seule précaution, la seule garantie qu'il y ait contre de tels inconvénients et de tels malheurs, c'est de ne pas donner trop vite notre affection et de ne point l'accorder à ceux qui en sont indignes. Ceux-là méritent notre amitié qui ont en eux-mêmes les moyens de se faire aimer. De tels hommes sont rares, comme toutes les choses excellentes, et il n'est rien de plus difficile que de trouver un objet qui, dans son genre, soit parfait dans tout point. Mais il est bien des gens qui ne voient rien de bon dans le monde que ce qui peut leur être avantageux. Et parmi leurs amis, comme parmi leurs bestiaux, ils distinguent et préfèrent ceux dont ils espèrent retirer les plus grands profits. Ainsi, ils sont étrangers à cette amitié si naturelle et si noble qu'on ne recherche que pour elle et à cause d'elle. Et ils ne sauraient éprouver par eux-mêmes quelle est la nature et la force d'une telle amitié. Chacun s'aime soi-même non par l'espoir de quelque récompense, mais parce que l'amour de nous-mêmes est un sentiment que la nature nous donne. Si le même désintéressement n'existe pas dans l'amitié, il n'y a point de véritable ami, car notre ami est un autre nous-mêmes. Que si nous voyons tous les animaux, ceux qui peuplent les airs, la terre ou les mers, ceux qui sont devenus domestiques ou qui sont restés sauvages, d'abord s'aimer eux-mêmes, car c'est un instinct qui naît avec l'animal, ensuite désirer et rechercher ceux de leur espèce pour vivre avec eux, et cela par une espèce d'amour qui a quelque ressemblance avec le nôtre, combien plus penchant est-il dans la nature de l'homme, qui non seulement s'aime lui-même, mais qui trouve un autre homme dont l'âme se confond tellement avec la sienne, que deux elles-mêmes n'en font presque qu'une seule. Mais une injustice, pour ne pas dire une imprudence bien commune parmi les hommes, c'est de vouloir que leurs amis soient tels qu'ils ne sauraient être eux-mêmes et d'en exiger ce qu'eux-mêmes ne font pas. La raison veut que nous commencions par être hommes de bien et qu'ensuite nous cherchions qui nous ressemble. Ce n'est qu'entre des hommes vertueux que peut s'établir cette constance en amitié dont nous parlons déjà depuis longtemps. Unis par la bienveillance, maîtrisant les passions dont les autres sont esclaves, amis de l'équité et de la justice, ils seront toujours prêts à faire tout l'un pour l'autre, ne se demanderont que des choses justes et honnêtes, et se témoigneront ainsi non seulement de la déférence et du zèle, mais du respect. Car bannir le respect de l'amitié, c'est lui faire perdre le plus beau de ses ornements. Ceux-là donc sont dans une funeste erreur, qui pensent que l'amitié favorise le libertinage et tous les genres de désordres. Elle nous a été donnée par la nature pour être le support de la vertu et non la complice du vice, afin que la vertu, qui ne pourrait dans l'isolement s'élever aux grandes choses, puisse y parvenir avec l'appui d'une telle alliance. Et ceux pour qui cette alliance existe ou a existé ou doit exister un jour, la regarderont à juste titre comme la meilleure et la plus heureuse qu'on puisse former pour arriver au souverain bien. C'est dans cette association, dis-je, qu'on trouve tout ce qui mérite l'amour des hommes, l'honnêteté, la gloire, la tranquillité et la joie de l'âme, tous ces biens qui font le bonheur de la vie et sans lesquels on ne peut être heureux. Pour parvenir à cette félicité suprême, il faut pratiquer la vertu, sans laquelle nous ne saurions jouir ni de l'amitié, ni d'aucune chose vraiment désirable. Ceux qui négligeront la vertu et croiront néanmoins avoir des amis, reconnaîtront leur erreur au premier jour de l'adversité. Il faut donc, on ne saurait trop le répéter, tâcher de connaître avant d'aimer, et non pas lorsqu'on aime. Et si notre négligence nous est funeste dans bien des choses, c'est surtout dans le choix et dans le commerce de nos amis. Les précautions arrivent alors trop tard, et comme on dit, nous finissons par où il aurait fallu commencer. Après s'être liés de toute manière, soit par un commerce de tous les jours, soit même par des services, une offense reçue vient tout à coup rompre une amitié dont les nœuds étaient formés depuis longtemps. Une si grande insouciance dans une affaire aussi importante est bien condamnable. En effet, rien au monde n'est reconnu généralement pour utile que l'amitié. La vertu elle-même est l'objet du dédain de certains hommes qui ne voudraient la faire passer que pour une vaine ostentation, une espèce de charlatanerie. Plusieurs méprisent les richesses et se plaisent dans la médiocrité. Les honneurs qui enflamment les désirs de tant d'autres, combien d'hommes qui les dédaignent et les regardent comme ce qu'il y a de plus futile et de plus frivole sur la terre. Il en est de même de tout le reste. Ce qui est admirable pour les uns n'est rien aux yeux des autres. Mais sur le compte de l'amitié, il n'y a qu'une voix, qu'une seule opinion. Et ceux qui gouvernent les affaires publiques et ceux qui se livrent à l'étude et aux recherches savantes, et ceux qui bornent leurs soins à leurs intérêts particuliers, tous enfin, ceux-mêmes dont le plaisir est la seule occupation, pour peu qu'il leur reste quelque noblesse dans l'âme, Tous conviennent que la vie n'est rien sans l'amitié. Elle s'insinue, je ne sais comment, dans tous les états. Elle étend sa douce influence sur toutes ses conditions et ne souffre point qu'on se passe d'elle. Bien plus, s'il existe un homme d'un naturel assez sauvage, assez farouche, pour fuir, pour détester la compagnie des hommes, comme faisait à ce qu'on dit un certain Timon d'Athènes, il faudra encore qu'il cherche quelqu'un auprès de qui il puisse exhaler son venin. Cette vérité serait surtout mise dans le plus grand jour si quelque dieu enlevait un homme du milieu de ses semblables et le plaçait dans quelque désert où, lui fournissant en abondance tout ce que la nature peut désirer, il lui refuserait absolument le moyen et l'espérance de voir jamais personne. Quelle est l'âme de fer qui pût à ce prix-là supporter la vie et dans cette affreuse solitude trouver encore quelque charme à la jouissance de tous les plaisirs? Une chose bien vraie, c'est ce que disait souvent Archytas de Tarente, comme je l'ai appris de quelques vieillards à qui d'autres l'avaient rapporté. Que si quelqu'un montait au ciel, que de là il contemplât le spectacle du monde et la beauté des astres, il ne serait que faiblement touché de toutes ces merveilles qu'il eût jeté dans le ravissement s'il eût eu quelqu'un qui les racontait. Ainsi la nature de l'homme répugne à la solitude et semble chercher toujours un support. Elle en trouve un bien doux dans l'amitié. Mais tandis que cette même nature manifeste par tant de signes ses volontés, ses désirs, ses besoins, je ne sais par quelle fatalité nous demeurons sourds aux avertissements et aux conseils qu'elle nous donne. Comme l'amitié embrasse tous les détails de la vie, on a souvent des sujets de plainte et de soupçons qu'il est sage de prévenir ou de détruire ou de supporter. La seule occasion où l'on ne doit pas craindre d'offenser un ami, c'est quand il faut lui dire la vérité et parler avec franchise. Car il arrive souvent qu'un ami a besoin d'être averti ou réprimandé. Et nous-mêmes, nous devons prendre en bonne part ces remontrances quand on nous les fait par amitié. Mais il n'en est pas moins vrai que, comme le dit mon ami Terence dans son Andrienne, la complaisance flatte et la vérité blesse. La vérité est fâcheuse, sans doute, lorsqu'elle produit la haine, qui est le poison de l'amitié. Mais la complaisance est funeste, car en excusant les fautes d'un ami, elle le précipite à sa ruine. Le plus coupable est celui qui méprise la vérité et se laisse pousser au mal par la flatterie. Nous devons donc mettre notre attention et nos soins à écarter de nos avertissements l'âpreté et de nos reproches l'injure. Que notre complaisance, pour ne point changer le mot dont Terence s'est servi, se borne aux égards de la politesse, mais loin de nous cette flatterie qui favorise le vice et qui est indigne, je ne dis pas d'un ami, mais d'un homme libre. Car on doit vivre avec son ami autrement qu'avec un tyran. Quant à celui qui repousse la vérité jusqu'à ne pouvoir l'entendre de la bouche de son ami, oh, il faut désespérer de son salut. Caton, qui nous a laissé tant de sages maximes, prétendait que nous avions souvent plus d'obligations à des ennemis déclarés qu'à des amis trop indulgents. Parce que ceux-là nous disent souvent la vérité et que ceux-ci ne la disent jamais. Il est contre toute raison que les hommes qu'on avertit de leurs fautes ne ressentent pas la peine qu'ils devraient ressentir et ressentent précisément celle qui devrait s'épargner au lieu d'être fâchés d'avoir mal fait. Ils le sont d'être repris. Il faudrait au contraire se repentir de la faute qu'on a faite et s'applaudir de la vie qu'on reçoit. Puisque c'est le propre de la vraie amitié de donner et de recevoir des avis, de les donner avec franchise et sans âpreté, et de les recevoir sans impatience et avec douceur, il suit de là qu'il n'est rien de plus pernicieux en amitié que la flatterie, les manières doucereuses, la complaisance outrée. On ne saurait employer trop d'expressions différentes pour mieux signaler le vice de ces hommes frivoles et artificieux, toujours prêts à dire ce que vous voulez et jamais à dire la vérité. La dissimulation est funeste en toute chose, puisqu'elle obscurcit et corrompt l'idée du vrai. Mais elle est surtout contraire à l'amitié. Elle détruit la vérité, sans laquelle l'amitié n'est rien. Tel est le pouvoir de l'amitié, que de plusieurs âmes, elle n'en fait pour ainsi dire qu'une seule. Comment cela se pourra-t-il, si au contraire, il n'y a pas même une seule âme dans un seul homme, et si au lieu d'être toujours le même, il change, il varie, il prend toutes les formes? Quoi de plus variable, en effet, de plus versatile qu'une âme qui se plie et se replie comme elle veut, je ne dis pas selon le sentiment, selon la volonté d'un autre, mais à son moindre signe, à son moindre geste. On dit non, je dis non, on dit oui, je le dis, jamais je le conteste et toujours j'applaudis. C'est encore Terence qui parle, ou plutôt qui fait parler Gnaton. Il y a bien de la prudence à se lier avec des amis de cette espèce, mais le caractère de ces Gnatons n'étant point rare parmi les hommes d'une réputation, d'une fortune, d'un rang plus élevé, il est à craindre que leur autorité ne rende leurs adulations encore plus funestes. Avec de l'attention, on distinguera le flatteur du véritable ami, comme on distingue les choses fardées et artificielles de celles qui sont naturelles et vraies. Une assemblée publique, quoique composée d'hommes sans lumière, juge pourtant la différence qu'il y a entre l'homme populaire, c'est-à-dire l'adulateur du peuple, l'homme frivole et le citoyen grave et sévère. Par quelle basse flatterie, Caius Papirius, citoyen grave et sévère, ne cherchait-il pas dernièrement à séduire l'assemblée du peuple lorsqu'il voulait faire passer sa loi de la réélection des tribuns? Je m'élevais contre cette proposition, mais je ne parlerai pas de moi, je parlerai seulement, et avec plaisir, de Scipion. Quelle gravité, grand Dieu, quelle majesté dans sa harangue! Vous eussiez dit du chef des Romains, et non plus de leurs concitoyens. Mais vous y étiez présent, et sa harangue a été publiée. Aussi cette loi, quoique populaire, fut rejetée par les suffrages du peuple même. Et pour en revenir à moi, vous vous souvenez de la loi que voulait faire passer Caius Licinius Crassus sous le consulat de Quintus Maximus, frère de Scipion et de Lucius Mancinus, et vous n'avez pas oublié combien elle était populaire? Elle transportait au peuple la nomination des collèges. De plus, Crassus avait donné le premier l'exemple de se tourner vers le peuple en parlant dans le forum. Cependant, la religion des dieux immortels, défendue par nous, l'emporta facilement sur les flatteries de son discours. Je soutins cette lutte pendant ma préture, 5 ans avant mon consulat. Ce ne fut donc pas une autorité imposante qui triompha, mais la vérité. Si donc, sur la scène même, et j'appelle ainsi l'assemblée du peuple, où domine l'illusion et tous les genres de prestige, la vérité, pour peu qu'elle se montre et qu'elle brille aux yeux, exerce une influence si puissante, quelle force ne doit-elle pas avoir dans l'amitié qui repose tout entière sur la vérité? Si votre âme, comme on dit, ne se montre à nu, si vous lisez dans celle de votre ami plus de confiance, plus de sécurité, vous ne pourrez même jamais aimer ni être aimé, tant qu'il y aura des doutes entre vous et votre ami. Il faut le dire, cependant, la flatterie en amitié, quoique pernicieuse, ne peut nuire qu'à celui qui la reçoit et qui s'y livre avec plaisir. Nul ne prête une oreille plus favorable au flatteur que celui qui se flatte lui-même avec le plus de complaisance. La vertu s'aime beaucoup elle-même, parce qu'elle se connaît parfaitement et qu'elle sent combien elle est aimable. Mais je ne veux parler maintenant que de la réputation de vertu. Bien des gens, en effet, cherchent moins à être vertueux qu'à le paraître. Ce sont ceux-là qui aiment la flatterie. lorsque le flatteur, pour leur plaire, leur donne des louanges. Ils s'imaginent que ce vain discours est l'éclatant témoignage de leur mérite. L'amitié ne peut donc subsister entre deux hommes quand l'oreille de l'un est toujours fermée à la vérité et la bouche de l'autre toujours ouverte pour le mensonge. C'est plutôt la crédulité des soldats fanfarons qui nous fait rire dans les comédies que les flatteries des parasites. Thaïs me fait, dis-tu, 1000 remerciements ? Il suffirait de répondre « Oui, 1000 ». Mais le flatteur dit « 1 million !» car il exagère tout au gré de celui qui l'écoute. Quoique cette flatterie mensongère n'ait de valeur qu'auprès de ceux qui la recherchent et la provoquent, il y a pourtant un conseil à donner aux hommes graves et raisonnables, c'est de se tenir en garde contre la flatterie adroite et masquée. Un flatteur impudent ne peut tromper qu'un imbécile, mais on ne saurait assez se prémunir contre les insinuations du flatteur qui se cache et se déguise. Il n'est pas toujours facile de découvrir ses ruses. Souvent même, il ne vous contredit que pour se ranger ensuite de votre avis. Il ne combat votre opinion que pour mieux vous flatter, en finissant par rendre les armes, par s'avouer vaincu. Et cette victoire qu'il vous accorde est un moyen de vous faire plus sûrement sa dupe. Est-il un rôle plus humiliant ? Soyons donc sur nos gardes. Craignons qu'on ne dise de nous comme dans l'épique les Russes. Vous avez aujourd'hui bien berné devant moi tous ces vieux radoteurs, barbons de comédie. Les vieillards crédules et imprévoyants sont en effet les personnages de comédie les plus insensés. Mais nous sommes tombés, ou je ne sais comment, de l'amitié des honnêtes gens, c'est-à-dire des sages, je prends ce mot dans le sens usuel, aux amitiés superficielles et trompeuses. Revenons enfin à la véritable amitié et terminons cet entretien. La vertu, je le répète, Fannius et Scaevola, produit l'amitié et la conserve, car tout se trouve en elle, sympathie, stabilité, constance. Dès qu'elle se montre dans quelqu'un, dès qu'elle y fait briller ses rayons et qu'elle les aperçoit et les reconnaît dans un autre, ce sont alors deux êtres qui s'attirent, se rapprochent pour se confondre et s'enflamment ainsi ou d'amour ou d'amitié, sentiments qui ne sont que deux différentes manières d'aimer. Or, aimer n'est autre chose que chérir quelqu'un pour lui-même et sans aucune vue d'intérêt et d'utilité. Cependant, cette utilité naît infailliblement de l'amitié même. On n'y songeait pas, mais elle en est inséparable. C'est ainsi que dans ma jeunesse, j'aimais des hommes illustres, bien plus âgés que moi. Lucius Paulus, Marcus Caton, Caius Gallus, Publius Nasica, Tiberius Gracchus, beau-père de mon cher Scipion. L'amitié est encore plus vive entre gens de même âge, tels que nous étions Scipion et moi, et Lucius Furius, Publius Rutilius, Spurius Mummius. Je me complais à mon tour, à présent que je suis vieux, dans l'amitié des jeunes gens, comme dans la vôtre, dans celle de Quintus Tuberon, même dans celle de Publius Rutilius et d'Augustus Virginius, dont la société me plaît beaucoup malgré leur grande jeunesse. Toutefois, puisque la succession des âges est dans l'ordre de la nature, il est bien à désirer de pouvoir passer sa vie avec ceux de son âge et d'arriver, pour ainsi dire, à la borne avec ceux même à qui la barrière a été ouverte en même temps qu'à nous. Mais les choses humaines sont si incertaines, si fragiles. Faisons-nous donc toujours des amis que nous chérissions et qui nous chérissent. Si vous ôtez de la vie la bienveillance et l'affection, vous en bannissez toute la douceur. Scipion, quoiqu'il m'ait été si subitement enlevé, vit encore et vivra toujours pour moi, car c'est sa vertu que j'aimais, et elle n'a point péri. Et ce n'est pas pour moi seul qui en ai joui sans cesse que sa vertu existe encore. Elle passera dans tout son éclat à la postérité. Nul homme ne concevra, n'entreprendra jamais rien de grand sans se proposer Scipion pour modèle, sans avoir son image devant les yeux. Oui, de tous les bienfaits que j'ai reçus de la nature ou de la fortune, il n'en est aucun que je puisse comparer à l'amitié de Scipion. Par elle, nous n'avons eu qu'un même sentiment sur les intérêts de l'État, qu'un même conseil dans nos affaires domestiques. Par elle, nos loisirs ont été remplis de charme. Jamais, que je sache, je ne l'offensais dans la moindre chose. Jamais il ne sortit de sa bouche une parole que je n'eusse pas voulu entendre. Nous habitions la même maison, nous vivions à la même table, et jamais on ne nous vit séparés, ni à la guerre, ni en voyage, ni à la campagne. Que dirais-je de notre ardeur d'augmenter et d'étendre nos connaissances, de ces études qui, loin des yeux du vulgaire, occupaient tous nos loisirs? Si le souvenir de tant d'heureux moments avait péri avec lui, il me serait absolument impossible aujourd'hui de supporter la perte d'un si cher et si excellent ami. Mais non, il n'a point péri dans mon esprit, ce souvenir. Il s'y nourrit par la pensée. Il y vit plus que jamais. Enfin, quand je l'aurai perdu tout entier, je trouverai encore une grande consolation dans mon âge avancé, car cette privation ne peut plus être longue pour moi. Et le mal qui dure peu, quelque violent qu'il soit, est plus facile à supporter. Voilà ce que j'avais à vous dire de l'amitié. Je vous exhorte à la mettre au-dessus de tous les liens après la vertu, qui doit avoir le premier rang, et qui est la base de l'amitié même.